Nous poursuivons la lecture de l'évangile de Matthieu qui nous est proposé tout au long de l'année. Et nous étions restés la semaine dernière à la parabole du semeur. Voici une autre parabole dite du royaume, toujours dans Matthieu 13 à partir du verset 24. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussa et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent, « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?»« Non, » répondit-il, « car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. » Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes, pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. » Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'on prend et qu'on sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine jusqu'à ce que toute la pâte lève. Voici trois paraboles pour le prix d'une. Vous avez de la chance. Et puis, il y a des paraboles qui rassurent, pas simplement dans le fait de nous rappeler que ce sont les femmes qui font les gâteaux. Ces trois paraboles séparent clairement le bon du mauvais. Voilà enfin du clair. Elles séparent nettement les vainqueurs des perdants, c'est bien aussi. Le juste et l'injuste, enfin, on y voit clair. Et puis elles donnent le sentiment aussi qu'il suffirait de regarder attentivement pour savoir où passe la frontière entre le bien et le mal. Ça fait du bien. Quand tout est brouillé, d'y voir un peu clair. Sauf que la parabole de l'ivraie, du bon grain et de l'ivraie, fait exactement le contraire. Elle brouille les pistes. Voici un homme qui sème du bon grain. Jusque-là, ça va. Pendant la nuit, un ennemi vient semer de l'ivraie, ça commence à se gâter. Et quand les plantes poussent, les serviteurs découvrent que les deux poussent ensemble. Leur réaction est immédiate. Veux-tu que nous allions enlever l'ivraie ou la mauvaise herbe ? Jusque-là, ça va, c'est normal. La réponse est un peu plus surprenante. Non, en arrachant l'ivraie, vous risquez d'arracher aussi les épis de blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. On a souvent lu cette parabole un peu comme une annonce du jugement dernier, parce que les paraboles du royaume sont un prélude, une parenthèse ouverte qui se referme au moment du discours sur la fin des temps, au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. C'est donc normal de le lire comme l'introduction à ce que va être ce discours sur la fin des temps et qui est comme la conclusion de l'ensemble. Matthieu lui-même, c'est sa manière d'écrire, propose une interprétation fortement marquée par le langage de l'époque, un langage apocalyptique. C'est une manière de lire la vie, le monde, qui appartient à un univers où on attend une intervention décisive de Dieu pour mettre fin à l'histoire et séparer définitivement ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est bon et ce qui est mauvais. On attend ce tri. C'est la conclusion de l'intervention de Dieu dans l'histoire qui transparaît sous la plume de Matthieu. Ça correspond à ce qui est attendu. Mais La parabole semble nous donner aussi un enseignement un petit peu plus universel, plus proche de nous, heureusement. Le centre du récit, ce n'est peut-être pas la moisson finale, puisqu'elle est un résultat attendu. C'est la manière dont on parvient au résultat, et en particulier le refus d'arracher trop tôt. C'est ça qui est au cœur de notre histoire, une invitation à la patience, pas tout de suite. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas du laisser-faire. Le maître ne hausse pas les épaules, il y a de la mauvaise herbe, et alors, ce n'est pas son propos. Ni résignation, ni laisser-faire, mais la réalité est plus complexe que nos jugements. Moi, je vois l'ensemble du processus, semble dire le maître. Vous, vous êtes trop pressé. Et pourtant, la clarté, la simplicité, c'est vraiment appréciable, non ? Les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, les idées vraies ici, les erreurs là-bas, les victimes d'un côté, les coupables ou les bourreaux de l'autre, on y verrait enfin clair. Mais c'est rarement comme ça. Nos élans généreux sont parfois chargés de contradictions. Nous pouvons être lucides dans un domaine et complètement aveugles dans d'autres. Nous pouvons vouloir sincèrement améliorer les choses en produisant des conséquences un peu inattendues. Une meilleure santé, une vie plus longue, c'est bien. Une population qui vieillit produit un autre comportement collectif, et puis ça a d'autres répercussions. Voilà. On ne maîtrise jamais totalement les processus, même quand ils contiennent du bon. Le moins bon pousse en même temps, et on ne s'en aperçoit qu'à la fin. C'est peut-être à la fin du processus qu'on fait le tri, là aussi. Dans la parabole, les serviteurs veulent simplifier la situation. C'est un réflexe normal. Quand les choses sont compliquées, on veut simplifier. Ils veulent agir immédiatement et purifier le champ. C'est le verbe qui est utilisé et qui est assez parlant en lui-même. On comprend bien leur réaction. La pollution du bon par le mauvais les dérange, c'est normal. C'est naturel. Ils veulent éliminer les causes du problème. C'est une tentation bien compréhensible et assez permanente chez nous de chercher des responsables uniques, des coupables, des explications simples. Il faut éliminer quelques éléments perturbateurs et tout rentre dans l'ordre. Nous irons bien mieux après cela. Et pourtant, chaque fois qu'une société a voulu construire un monde parfaitement pur, parfaitement homogène, parfaitement conforme à une seule vérité, elle a fini toujours par se vautrer dans la catastrophe. Toujours. La parabole dite comme cela, avec ce nom qui est en plein au milieu de nos versets, limite fortement notre obsession de la pureté. Pourquoi ? Parce que les racines sont mêlées, justement. En arrachant trop tôt, en voulant faire le tri trop tôt, on ferait plus de dégâts qu'en laissant cette mauvaise herbe pousser jusqu'au bout. Le maître ne dit pas que l'ivraie est une bonne chose, puisqu'il faut la brûler à la fin. Il faut s'en débarrasser. Mais vouloir l'enlever trop vite risque de détruire aussi le blé. C'est ça son souci. Certaines interventions purificatrices produisent plus de dégâts que le mal à combattre. Patience, donc. Les solutions rapides qu'on nous vend parfois assez chères propose souvent, si vous regardez les verbes qui sont utilisés, d'éliminer, d'éradiquer ou de faire disparaître quelque chose. Tant que ce n'est pas quelqu'un encore, ça va, mais les verbes sont déjà inquiétants. Éliminer, éradiquer, faire disparaître, comme vous y allez, monsieur ou madame. Hein. Plus de conflits, plus de désaccords, on arrache tout. Tout devient une affaire d'élimination. Et après, nous irons tellement mieux. La parabole invite à autre chose. Réfléchis avant d'agir, mon cher ami. Avant de condamner, observe. Avant de trancher, de couper, d'éliminer ou d'éradiquer je ne sais quoi, mesure bien les conséquences de ce que tu fais. Et puis, la patience recommandée ici ne signifie pas que tout se vaut. Il y a bien une différence de valeur entre le bon grain et la mauvaise herbe. Tout ne se vaut pas. Le blé récolté nourrira beaucoup de monde, il est là pour ça. L'ivraie ou la mauvaise herbe sera probablement détruite, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être d'ailleurs qu'on peut réactualiser cette parabole. Le livret, après séchage, pourra servir à faire de la bourre pour siège de voiture, écologiquement responsable, par exemple, allez savoir. On peut même récupérer livret, mais ce n'est pas ce que suggère la parabole. C'était juste pour risquer une actualisation. Même ce qui est mauvais peut parfois être récupéré. C'est bien naturel de rêver d'une transformation instantanée. Allons-y tout de suite, arrachons tout, et tout se déroulera bien jusqu'à la moisson, mais ils n'en savent rien. Être enfin débarrassé de nos contradictions, ne plus avoir à douter, à se poser des questions, à risque de se tromper, ce petit geste éradicateur, et tout ira bien jusqu'à la fin du processus, rien n'est moins sûr. La vie ne fonctionne pas comme un jardin qu'on nettoierait en une matinée. Nos erreurs nous enseignent des choses importantes sur nous-mêmes. C'est parfois grâce à elles, et c'est dur de l'admettre, que nous avons aussi appris quelque chose. Et nous sommes plus que la somme de nos défauts. Et nous ne grandissons pas non plus en faisant comme s'ils n'existaient pas. Donc il faut faire avec l'un et avec l'autre pendant un certain temps, le bon grain livret, laisser pousser ensemble et puis le tri viendra à un moment ou à un autre. Il faut faire avec, au point parfois de transformer l'inutile en outil. Après la première parabole, viennent deux autres paraboles plus courtes. La graine de moutarde et le levain. On nous les donne d'ailleurs les trois ensemble, c'est pour ça que c'est un pack qu'il faut lire d'un coup. La graine de moutarde et le levain vont avec ce qui précède. L'explication de la règle, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut éviter de faire, sont dans la première, et puis il n'y a plus qu'à décliner ça dans les deux qui suivent. À première vue, elle semble raconter autre chose, évidemment, mais elle prolonge au fond exactement la même intuition. Ce sont des paraboles du royaume, dans tout ce chapitre 13. Le royaume ressemble à une graine presque invisible, c'est ce qu'il y a de plus petit, la graine de moutarde. Et aussi à une poignée de levain, c'est assez fin la levure. Un grain de levure, c'est encore mieux de ce point de vue-là qu'une graine de moutarde, encore plus invisible. On met en scène deux fois de suite comme ça des transformations décisives. Un arbre qui pousse plus grand que tous les autres, une patte qui lève alors que cette chose microscopique n'apparaissait même pas dans la patte au moment où on la pétrit. Les transformations décisives commencent presque jamais par quelque chose qui impressionne tout de suite. C'est tout discret, tout petit, caché dedans. Nous sommes, nous, spontanément attirés par ce qui est spectaculaire, donc nous avons du mal à admettre que des choses comme ça produisent quelque chose de valeur. Mais de son côté, Jésus, lui, attire le regard vers l'infiniment petit. C'est comme ça, encore une contradiction, ce n'est pas la première. Une graine, un peu de levain, rien qui crée de l'agitation sur les chaînes d'infos continues ou sur les réseaux. Pas de quoi faire une nouvelle avec ça. Il suffit de planter, on attend la fin. On n'affolerait pas les plateaux avec ça. Et pourtant, c'est à ce moment-là que commence le changement. Il faut vraiment saluer dans ces quelques lignes, ces trois exemples très simples, très clairs, la possibilité de combattre chez nous la fascination pour l'événement. Seuls les bouleversements, les ruptures, les choses qui font trembler les cloisons ont de la valeur. C'est un de nos défauts. Les évolutions les plus profondes sont presque imperceptibles et il faut constamment l'apprendre ou le réapprendre. C'est comme ça. Une confiance retrouvée, une parole enfin entendue, tout ça, c'est la confiance, écouter attentivement et vraiment comprendre. Toutes ces choses-là demandent du temps. Ça n'est jamais comme ça du premier coup. Une réconciliation discrète après s'être brouillé, une compréhension nouvelle. Combien d'heures de lecture, de relecture, de discussion, de réflexion, de retour en arrière, d'hésitation, etc. Il faut du temps. Ce sont des petites choses, mais elles changent petit à petit ce qui nous reste à vivre. Elles nous changent. La levure, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Une fois mélangée à la pâte, elle va même jusqu'à disparaître. Bon, la graine aussi, on dirait, elle donne naissance, elle éclate, puis elle donne naissance à autre chose. Mais cette chose déjà microscopique va encore plus loin. Elle disparaît. elle laisse la place à quelqu'un d'autre. On ne la voit plus. Et pourtant, c'est quand on ne la voit plus qu'elle se met à agir. Pensez à votre soufflé, au fromage, à vos chouquettes. L'essentiel de la vie fonctionne comme ça, pas comme une chouquette bien sûr, mais comme ce levain. On ne voit pas une intelligence devenir plus libre en une minute, comme ça il lui faut du temps. Mais quelqu'un a mis quelque chose qu'on ne discerne plus dans cette cervelle pour qu'elle parvienne un jour à être plus libre. Nous mesurons les changements de loin en loin, parfois tout à fait à la fin, comme à la fin d'une moisson. C'est frustrant, mais c'est à ce moment-là qu'on les remarque. Les transformations sont réelles, justement parce qu'elles sont lentes. Nous vivons, nous, imbibés de la culture du rapide, du visible. Et la parabole affirme l'inverse. Et elle affirmera toujours l'inverse. L'essentiel, c'est souvent invisible à son commencement. Il faut lui laisser le temps. C'est ce qu'on retrouve ici comme thème commun à ces trois paraboles. Le temps. Dans les trois, il faut du temps. Dans les trois, il faut aussi le refus de la précipitation. Il faut laisser faire les choses. Dans les trois, il faut la confiance dans un processus qu'on ne maîtrise pas. C'est comme ça. Même si on intervient avec ces outils, tout ne dépend pas de nous. Et puis, accepter une croissance lente. Les claquements de doigts ne serviront à rien. Tirer sur les tiges ne fera pas pousser plus vite, etc., etc. Ne pas réduire une personne à ce qu'elle montre à un moment donné. Ne pas réduire une église à ce qu'elle est à un moment donné, parce qu'elle va forcément changer et devenir un peu ou très différente. Il faut lui laisser le temps. C'est peut-être ça, espérer, d'ailleurs. Ce n'est pas tirer des plans sur la comète, c'est attendre le bon moment. Ça pourrait être une bonne définition de l'espérance. La patience dont parle la parabole n'est pas quelque chose de passif. Il faut évidemment laisser les processus qui nous échappent se dérouler comme ils doivent l'être. Mais nous aussi, nous avons des tas de choses à faire. Il est beaucoup plus facile de juger que de comprendre, plus facile d'arracher que de cultiver. Le cultivateur, lui, travaille plus qu'il ne combat. Il ne se bat pas contre son champ. Il le respecte, il en attend quelque chose, mais il agit. Et puis il laisse faire aussi, il fait les deux. Il ne fabrique pas lui-même les fruits, en tout cas. Nous passons souvent notre temps à vouloir produire directement des résultats, c'est tentant, et on nous y pousse beaucoup. Il faut faire avec. Mais la parabole nous ramène aux conditions qui rendent ces résultats possibles. Créer un climat de confiance, favoriser l'intelligence. Il est toujours question de comprendre dans les paraboles du royaume. Si vous vous rapprochez de celle de la semaine dernière, la parabole du semeur, c'est « comprenez-moi », Jésus disait cela. La compréhension est première dans ce qu'il faut faire. Un climat de confiance, une intelligence favorisée, encourager la liberté, prendre soin des relations comme on prend soin de ces plantes qu'on laisse pousser toute seule parce qu'on a confiance en elles. Le tri viendra plus tard. Ça paraît modeste, mais c'est pourtant ce qui fonctionne, si on regarde cette parabole. Les trois paraboles réunies dessinent finalement une même vision de la vie. Le bien ne s'impose pas par la force, il faut le laisser grandir tout seul. La vérité ne triomphe pas parce qu'elle écrabouille l'erreur, elle convainc petit à petit. Elle a cette force de pousser en même temps que l'erreur qui la côtoie. Un jour, il faut qu'elle fasse la différence. La liberté ne s'obtient pas en supprimant toutes les contraintes d'un seul coup. Qui est capable de faire cela? Elle se construit par un travail patient de compréhension du temps. C'est peut-être là que les récits nous rejoignent. Ils se rejoignent entre eux, bien sûr, mais ils nous atteignent. Nous savons que les changements durables demandent du temps. Nous savons qu'une société ne devient pas plus juste par décret, ça se saurait. Nous savons qu'une relation ne retrouve pas la confiance en un jour, ça ne se décide pas comme ça. On ne dit pas à quelqu'un « aime-moi, c'est un ordre », ça ne marche pas. Bon, on peut essayer, mais ça ne marche pas. Nous savons qu'une personne ne change pas sous l'effet d'une injonction « tu dois être ceci, tu dois être cela », ça ne marche pas non plus. Il faut lui laisser le temps de faire des erreurs, de revenir sur ses erreurs, d'apprendre à nouveau. Mais nous continuons, nous, souvent, à vivre comme si tout pouvait être immédiat. Cette espèce de frénésie chez nous qu'il faut savoir combattre, ou retenir au moins. Les paraboles de Jésus ont toujours introduit beaucoup de choses, mais notamment une certaine manière de regarder le monde et un certain rythme. Le rythme du vivant qui est lent. Une plante pousse à son rythme, la pâte lève à son rythme, le champ mûrit à son rythme. Rien ne sert de tirer sur les tiges pour accélérer leur croissance, on le sait. Mais c'est la même chose pour nous, même si nous sommes peut-être les seuls êtres vivants à l'oublier ou à regretter que ce soit le cas, parce que nous aimerions aller plus vite. Il faut parfois accepter de ne pas voir immédiatement des résultats, continuer à semer, à cultiver, à faire confiance, pas par naïveté ou par sottise, mais parce que la vie possède une force de croissance que nous ne maîtrisons jamais complètement nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus appelle cela un royaume, pas un lieu lointain ou un jour peut-être, ou un monde parfait. Mais cette dynamique discrète qui travaille déjà notre vie, fragile comme une graine, invisible comme la levure, patiente aussi comme un cultivateur qui refuse d'arracher trop vite. L'espérance est exigeante, elle nous interdit d'être simpliste. Il y a du travail. Elle nous invite à regarder les autres avec davantage de nuances. Là aussi, il y a du travail. Elle nous apprend à nous regarder nous-mêmes avec plus de vérité. Nous ne sommes ni un champ entièrement couvert de mauvaises herbes, ni un champ parfaitement homogène, pur, avec seulement des épis de blé. Nous sommes des êtres en croissance mélangés, tous. Et peut-être que c'est précisément ça qui nous est confié, non pas de venir aspirer une forme de pureté qui est désamorcée hein, dès le début de la parabole, mais devenir chaque jour un petit peu plus capable de laisser grandir ce qui fait vivre. Et ça, c'est du temps, c'est la prise en compte de l'imperfection, des ratés possibles, etc., etc. Le royaume cesse d'être une promesse lointaine quand nous regardons notre vie comme ça, parce que perclus d'erreurs, de regrets, d'envie de revenir en arrière, c'est déjà le cas, nous y sommes déjà. Il n'y a pas besoin d'en faire une promesse lointaine. Mais le royaume devient une manière de regarder le monde, les autres et nous-mêmes, avec davantage de lucidité et surtout davantage de patience et peut-être davantage de confiance. Il y a peut-être une seule définition dans toutes les paraboles du Nouveau Testament qui définirait ce qu'est l'espérance, sans en donner une définition un peu ampoulée ou philosophique, ce seraient ces trois paraboles qui se suivent et qui nous disent ce que c'est d'attendre. Amen.